chirurgien, oui, il faut sentir ça. Un théologien, c'est quelqu'un qui. C'est quelqu'un qui comprend que c'est Dieu qui parle. C'est quelqu'un qui finit par comprendre que c'est Dieu qui est vivant. Que c'est Dieu qui parle. Et que Dieu a quelque chose à dire. Mais que c'est une doctrine. Et c'est pas une doctrine. C'est pas un corps de doctrine. Vous voyez, c'est un torrent doctrinal. C'est une lave brûlante de feu divin venue d'en haut. Et qui a des mots justes. Parce que ce sont ces mots-là qui sont brûlés par. Qui brûlent. Qui féconde, qui divinise, qui délivre, qui transforme le monde. Et au ciel, ça continue bien sûr, hein, parce que tout sera brûlé, puisqu'on passera d'un état de perfection à un état de perfection supérieur, sans arrêt. Donc il faudra bien brûler l'état de perfection, et on sera arrivé par un enseignement nouveau. Et au ciel, on sera enseigné, évidemment. Ah, moi, j'ai plus besoin qu'on m'instructionne, vous savez. Je suis agrégé de théologie. Donc, j'ai plus besoin d'instruction. J'ai plus besoin. C'est terrible d'entendre ça. Alors, je me présente, j'écoute un sermon, n'importe quoi, et je juge. C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est le signe, vous voyez, de l'hérétique, ça. N'importe quel prêtre de n'importe quelle église, on ne peut pas juger, c'est pas possible, on ne peut pas juger un sermon. Je proteste qu'on est plus doué, on n'est pas plus doué. C'est la communauté qui parle, qui exprime pauvrement ce qu'elle vit dans un état de pauvreté. Et c'est quelque chose de, à ce moment-là, perçu comme ça, quand on comprend que la doctrine du Christ passe par la communauté qui est là. On comprend que le sermon du Christ exprime la pauvreté de l'Église. Attends qu'elle m'instructionne dans quelque chose. Mais au ciel, c'est vrai, l'instruction, Jésus nous enseigne longuement. C'est merveilleux de ce que Jésus nous enseigne. Bon, donc on en était à regarder l'Apocalypse. Hein. Et c'est bien parce que nous sommes en train de survoler les premiers chapitres. Et on est en train de terminer ce survol, les premiers chapitres. Et puis après, voilà, on va s'enfoncer. C'est extraordinaire. J'ai regardé un film cette semaine, vraiment extraordinaire, où on voit... Vous allez me dire, c'est une obsession. Mais, oui, c'est une obsession, c'est un peu vrai. Mais où on voit la première cellule de l'embryon. Bon, et alors on voit ces 15 heures de fécondation. Vous voyez, filmées en réel. Gros comme ça. C'est d'une beauté, c'est d'une splendeur. Ça resplendit de toutes les couleurs et tout ça. Et on voit ces patrimoines génétiques du père et de la mère qui s'apprivoise, qui se rapproche, qui se conjoigne à travers un voile très très fin, puis d'un seul coup, ça y est, il n'y a plus, il y a le premier génome, et oh, ça dure 15 heures, finalement, c'est très 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 lent, et d'un seul coup, dès qu'il y a le premier génome, d'abord il y a une lumière, c'est filmé, hein. Il y a un tremblement. Ça dure un dixième de seconde. Et puis il y a un premier génome. Et dans la trois dixièmes de seconde après, deux génomes. Et avant que la seconde se soit terminée, ça y est, ça fait deux cellules premières. Et à partir de là, en temps réel, ça va très vite. Ça va très vite. Et on voit que l'embryon qui vient d'être animé et être dans la lumière commence à rester stable, ce zygote qui était resté immobile, complètement immobile, commence à bouger, à survoler, à voyager.
manger ça.
Alors elle envoie des globules blancs qui essaient de dévorer cet embryon. C'est magnifique, ces globules blancs qui entourent l'embryon. Et l'embryon dit, non, si tu veux pas de moi, c'est uniquement parce que tu n'aimes pas mon papa. C'est parce que j'ai du papa aussi. Donc tu n'aimes pas. Alors c'est l'embryon qui défend le papa contre la maman. Tu n'aimes pas assez mon papa, c'est pour ça. Alors tiens, eh ben, je me bagarre contre toi. Et du coup, il envoie des protéines pour défendre son papa contre sa maman. Parce que ton papa, c'est pas un corps étranger. Et t'as des cellules staminales de mon papa aussi, hein, et après que moi. Ah, ouais. Si jamais encore tu vivais d'une unité spensale, il y aurait beaucoup de cellules staminales, tu serais déjà habitué. Et alors, à un moment donné, la maman dit, puis il frappe à la porte, il frappe à la porte de l'utérus. Alors, la maman se calme un peu, tu vois. Et puis, à un moment donné, il frappe. Celui qui frappe à la porte, j'entrerai. Je frappe à ta porte. J'entrerai, celui qui ouvre, j'entrerai. Et je souperai, lui, nous mangerons ensemble, lui avec moi, moi avec lui. Et on voit à ce moment-là la porte qui s'ouvre et l'embryon qui s'enfonce et disparaît à l'intérieur de l'utérus. Il s'enfonce dedans pour respirer. Et puis il va aller à l'intérieur de l'utérus. La porte de la maman s'ouvre. C'est un peu ça ce qu'on fait dans l'Apocalypse. Et on a survolé un peu. On a fait le premier chapitre. Puis après on s'est envolé pendant les 6 jours. Et le 7e jour, ça y est, il est dans le sang de la mère. Et du coup, aussitôt son cœur se forme. Et dans 4 jours, son cœur va battre. Mais ce 7e jour où elle commence à s'enfoncer, quelque chose d'extraordinaire parce que à ce moment-là, la mère se réveille la nuit, alors qu'il n'est pas plus grand qu'une tête d'épingle. Se réveille la nuit, il faut qu'elle a besoin de calcium, de magnésium, de machin, chose que dont on n'a jamais besoin d'habitude. C'est plus elle qui pilote, c'est le petit qui la pilote. C'est pas beau ça. Le Seigneur est mon berger. Il s'est fait tout petit. C'est lui qui me pilote. Je l'ai fait rentrer. Dieu, et c'est le seul enseignement, l'écriture, la sainte Bible. Voilà, c'est tout. Je proclame la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas la doctrine, c'est l'écriture. C'est pas un enseignement, la parole de Dieu. Vous voyez ? C'est le drame des protestants, ça, vous voyez ? C'est un très grand drame. Vraiment qu'on vive, comme dit le Concile Vatican II, de la doctrine vivante. Oui. Alors, heureux ceux qui lisent, heureux celui qui vit, c'est-à-dire heureux ceux qui écoutent ce qui est écrit dans ce livre. Alors, vous vous rappelez qu'on avait vu le cinquième sceau qui représente au fond l'innocence divine, ce qui est sous l'autel. C'est extraordinaire ce passage. À partir du moment où on va saisir, s'engloutir, être attentif, être vêtu de la robe blanche dans l'innocence divine qui est en dessous de l'autel, parce qu'elle n'est pas admise à cause du temps. À cause du mystère de la patience, n'est pas encore admise dans le ciel, la gloire de Dieu. À ce moment-là, on peut rentrer dans le sixième sceau. Et le sixième sceau, on l'avait lu, mais on ne s'était pas trop arrêté. Hein. Quand il ouvrit le sixième sceau, survient un grand tremblement de terre. C'est vrai. Dès qu'on est rentré, vous voyez, dès qu'on est rentré dans ce grand moment de... De notre innocence divine retrouvée dans l'innocence triomphante de Jésus, à ce moment-là, il y a un grand tremblement de terre. Le grand tremblement de terre, moi je crois qu'il s'agit du grand tremblement de terre, puisque je viens de vous expliquer comment nous essayons de lire l'Apocalypse. Ce grand tremblement de terre, c'est le tremblement de terre qu'il y a. La terre, c'est le corps, hein, c'est le corps spirituel, hein, c'est ça la terre. Hein. Vu d'en haut, la terre, c'est le corps spirituel. Alors, quel est le corps spirituel de l'Apocalypse ? C'est ce corps vivant, palpitant, un seul corps, une seule chair glorieuse de Jésus-Marie-Joseph. C'est cette espèce de terre extraordinaire qui se fissure pour nous faire rentrer. Un grand tremblement de terre, dès lors que je retrouve cette innocence divine, originelle, crucifiée, mais qui triomphe par l'agneau. C'est ça ma prédestination, de triompher dans l'agneau de Dieu, dans les noces triomphantes du Messie glorieux. Alors à ce moment-là, il y a une fissure sur l'autel de l'agneau de Dieu. Et l'autel de l'agneau de Dieu, c'est la terre, un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de grains. Et la lune entière devint comme du sang. Et ça, c'est vraiment l'image d'Épinal de l'Apocalypse. Oh, vous rendez compte, le soleil qui va devenir noir, la lune qui va devenir couler du sang. Ça, le soleil, c'est le Christ, bien sûr. Hein, c'est la lune, c'est Marie, c'est le monde sublunaire. C'est une tradition, vous voyez, c'est la lune. Et la terre, c'est quand les deux disparaissent, il n'y a plus que Jésus-Marie, Joseph glorieux, vous voyez. C'est normal que le soleil s'obscurcisse, que Marie soit toute vivante, du coup. Toute vivante, toute palpitante du sang d'agneau. Glorieux. Alors à ce moment-là, il y a les étoiles du ciel tombent sur la terre. Alors du coup, les étoiles du ciel, c'est tous les élus. Du ciel qui sont contemplatifs et qui contemplent ce que Saint Jean contemple ici, tombe sur la terre qui elle-même s'ouvre. Cette terre de la résurrection, de s'engloutir dans la terre de la résurrection d'en haut. C'est très très beau. À ce moment-là, le soleil de notre terre n'a plus un grand intérêt. Hein. Je me rappelle quand je travaillais à Paris, je travaillais pendant quelques années quand même, j'ai eu un salaire, j'ai connu ça, moi aussi, j'ai connu. ciel. Ah oui, les étoiles du ciel tombent sur la terre comme un figuier par grand vent secoué jette ses fruits verts. Oui, comme un figuier tordu par la tempête jetant ses fruits verts par la bourrasque. Qui n'est pas bonne là cette fois-ci. C'est le fruit, le figuier, c'est la contemplation, et c'est Jésus qui contemple à travers nous, et nous on contemple plus. Alors, trompette, tourbillon, le figuier tordu par la bourrasque du Saint-Esprit, vous voyez. C'est ça qui se passe à partir du moment où il va y avoir quelque chose. Quelque chose au-delà du revêtement du corps spirituel par l'innocence divine. Sixième saut de l'Apocalypse, le monde nouveau. La mise en place du corps spirituel. C'est très beau, quoi. C'est vrai, de le voir exprimer comme ça. Alors évidemment, les gens qui n'ont pas la foi que le ciel n'existe pas, ou l'Apocalypse, le ciel, les étoiles du ciel tombent sur la terre, un figuier grand tordu par la poisse qui se frime, et le ciel se retire comme un livre qu'on roule. Le ciel de la contemplation. Vous voyez, la théologie, même mystique, hein, se retire comme un livre qu'on roule. C'est la Torah. C'est un livre qu'on roule, vous voyez, qu'on déroule comme ça. Les deux rouleaux, et on tire comme ça. Les deux rouleaux, on tire comme ça, les deux rouleaux. Et puis on lit. Et le ciel se retire. Alors, le ciel se retire comme un livre qu'on roule. Il n'y a plus de ciel. Notre contemplation se retire comme un livre qu'on roule. Et on peut dire aussi le ciel de notre contemplation dans la lumière surnaturelle de la foi, dans l'esprit d'intelligence, dans l'esprit de sagesse, qui nous fait rentrer dans l'intime de la lumière du Saint-Esprit à l'intérieur de la très sainte Trinité glorieuse de Jésus, la transverbération du cœur de Marie glorifiée. On rentre là-dedans, c'est vrai, on est rentré là-dedans, mais à un moment donné, dans le corps spirituel, tout ça se déchire, tout ça. Et c'est très beau, ça, comme image. Comme un livre qu'on roule. C'est très beau, moi j'aime beaucoup cette image-là. Ouais. Si vous voulez, l'image qu'on peut retenir ordinairement, quand c'est une extase, un ravissement ou un vol de l'esprit, c'est pas du tout la même chose. Quand c'est une extase, c'est comme quelque chose qui se déchire, et puis vous voyez quelque chose, hop, comme un papier qui se déchirerait, et vous voyez la lumière de Dieu, vous voyez Jésus, vous voyez une apparition. C'est certainement ce qui se produit pour Jean-Baptiste, quelque chose comme ça, vous voyez, au baptême de Jésus. On dirait bien, n'est-ce pas? Peut-être plus, parce qu'il était tellement incarné, Jean-Baptiste, que ça devait être plus quand même qu'une extase. C'était pas une extase, je vois pas Jean-Baptiste en extase, moi. Hmm. verbe, hein, un état tout subsistant, tout ruisselant, de la présence du verbe de Dieu qui fait palpiter notre chair dans toutes ses cellules. Déjà, on est quand même au sixième saut de l'Apocalypse, hein, on est propre, hein. Attention, c'est sixième demeure, cette espèce de vie-là, c'est pas rien. Donc, on est tout palpitant, quoi, de cette transe, de cette subsistance dans le verbe de Dieu qui palpite comme ça. Mais, et bien même ça disparaît. La subsistance du verbe, vous voyez. La montagne, c'est le verbe, hein, vous savez. Hein, quand Jésus monte au sommet de la montagne, ça veut dire qu'il s'assied et qu'il vit en tant que Jésus, incarné, fils de Marie. Il vit de ce qu'il est, le Dieu vivant, verbe éternel de Dieu créateur. Alors une fois assis au sommet de la montagne, il appelle ses disciples et il leur dit « Bienheureux les pauvres en esprit ». À chaque fois que Jésus parle au sommet de la montagne, ça veut dire qu'il se place au sommet de son mystère de personne divine. Oui. Et quand il est dans la barque pour enseigner dans l'évangile, ça veut dire que Jésus se place dans le fait de son union hypostatique, dans sa grâce capitale. C'est pas tout à fait la même chose. À repérer ça. Hein, dans l'évangile, Jésus ne parle pas toujours au même. Quelquefois il parle en tant qu'homme, quelquefois il parle en tant qu'il est saint et saint, d'autres fois il parle en tant qu'il est la grâce capitale, l'union hypostatique de tout le ciel et de toute la terre, et d'autres fois où c'est Dieu lui-même qui crée. Alors il est au sommet de la montagne. Ah bien, les montagnes et les îles, tout ça, change de place. Il y a une montagne, arrache-toi de là, elle va te planter dans la mer, elle t'obéira. Si tu es à la fois petit comme ça, comme un grain de sel, Jésus dit ça. Si tu es à la fois toute petite, ouais. Comme ces histoires d'âmes sous l'autel, ces âmes qui ont été tuées, hein. Elles ont été tuées. Hein. Et elles ne sont pas au ciel. Ça, c'est... L'Église est en train de reconnaître que dans ce cinquième saut de l'Apocalypse, ces âmes du cinquième saut, ce sont les enfants avortés. Ces enfants qui n'ont pas pu naître. Ils ont une place extrêmement importante puisque c'est grâce à eux, par eux, que Jésus, à travers son corps mystique de l'Église et de Marie et Joseph, va pouvoir ouvrir le sixième saut de l'Apocalypse, c'est-à-dire le monde nouveau, la révélation, le sixième jour. Vous savez, dans la Genèse, le sixième jour, tout ce qui avait été avant le sixième jour, c'était pour arriver au sixième jour. C'était pour arriver. C'est l'herbe, c'est important. Enfin bon, le ciel et la terre, c'est important, mais le sixième jour, c'est l'homme et la femme. Et une fois que c'est fini, Dieu s'arrête. C'est pour le sixième jour. Mais oui, c'est pour arriver au sixième jour de l'Apocalypse, sixième saut. Pour arriver au sixième jour de l'Exode, arriver au sixième jour de Jésus, au sixième jour du Saint-Esprit, au sixième jour du ciel. Et bien, il faut cette préoccupation, vous voyez, de tout le corps mystique vivant de Jésus pour donner cette robe blanche. C'est sûr. Moi, ça me frappe beaucoup, que le Seigneur dise, voilà, il faut aimer son prochain, le plus petit d'entre les miens, tout ça. Et les plus petits, les plus en besoin, qui sont les plus importants pour Dieu, qui sont plus grands que le plus grand de tous dans le royaume de Dieu, ce plus petit plus grand que lui. Et combien il y en a? Et est-ce qu'on s'en, et on ne s'occupe pas d'entendre leur voix, leurs soucis, de venir avec nous ouvrir le sixième saut de l'Apocalypse? C'est pour où ça je trouve. Ils le font silencieusement, on dit bien, c'est le cri silencieux. C'est pas cri silencieux comme on voit dans certains films ou séries. vivant, du corps mystique vivant, de Jésus vivant, qui est le fait du sixième saut de l'Apocalypse. La création de l'homme de plénitude du ciel et de la terre, dès cette terre. Là, le monde angélique, là, il s'arrête. Il y a plus grand que lui cette fois-ci. Dans la création, si vous voulez, le monde angélique avait dû admettre ça, mais c'était son épreuve par la foi. Tandis que là, il le voit. Là, on pense particulièrement au septième ciel du monde céleste, où est établi Enoch avant son retour, par exemple, voyez. Mais aussi le monde céleste, c'est-à-dire le monde spirituel angélique, glorieux dans la vision béatifique, il y a une stupéfaction. À l'intérieur de la très sainte Trinité, dans l'intime, que ce soit l'agneau, très bien, mais là, c'est ceux qui sont sur la terre, qui sont dans l'agneau, qui est au milieu du trône. Là, ils sont obligés de dire, bon, ok, là, c'est la matière, voyez, et le monde incré de Dieu sont ensemble. Et du coup, ils sont dans un état de stupéfaction. C'est cet état de stupéfaction dans lequel on rentre, nous aussi, voyez, quand on fait oraison. On fait oraison pour rentrer dans la septième demeure. On fait oraison pour atteindre l'union transformante du mariage spirituel de la septième demeure. On fait oraison uniquement pour ça. On fait oraison pour arriver à cette... Et se fit un silence d'environ une demi-heure. Pour laisser la liberté au Saint-Esprit, à Marie, de l'intérieur de nous, de nous faire engolfer dans ce livre qu'on roule, dans cette bourrasque. Et cette production, ce mélange, ce miracle des trois éléments. Mais ça, on l'avait déjà lu. On l'avait déjà lu, n'est-ce pas? Je vois les sept anges qui se tiennent devant la face d'Elohim. Il leur a donné sept trompettes. Il leur a été donné sept trompettes. Et maintenant, on rentre dans l'Apocalypse avec les trompettes. La trompette, quand Moïse sortait de sa tente pendant les 40 ans de la traversée du désert, alors, le peuple d'Israël sonnait de la trompette, sonnait du shofar. Oh, je vous avais déjà vu, c'est dans les livres de bibliques ou je ne sais pas quoi, ou catéchisme, à quoi ça ressemble un shofar. Oh, ça veut dire c'est maintenant, tout le monde dehors. Et tout le peuple d'Israël sortait de sa tente. Et regardez Moïse sortant de sa tente, traverser tout le campement, monter sur la colline adjacente, rentrer dans la tente de réunion, et aussitôt qu'il était rentré, le Messie, transfiguré, se faisait voir de tout le peuple d'Israël. Jésus n'était pas né, hein, puisque c'était quand même Moïse, c'est 1200 ans avant Jésus-Christ, hein, 1300. Chaque jour, pendant 40 ans, le peuple d'Israël a vu Jésus transfiguré. Le Messie, c'est les rabbins qui disent. Et c'est le Messie glorieux, lumière, Bereshit de la création qui parlait à Moïse pour lui enseigner la Torah. Eh bien, ça va s'incarner. Ça va se manifester. L'apocalypse va commencer. Et cette trompette, c'est la réalisation. Première trompette, première réalisation. Deuxième trompette, deuxième réalisation. Mais l'ange sort. Un messager. Avec les sept trompettes. Oui. C'est la trompette parfaite. C'est la trompette par excellence. C'est la réalisation ultime. La réalisation par excellence. Sept trompettes. Puisque sept, ça veut dire par excellence. N'est-ce pas ? Alors là, ça c'est beau ça. Je vois sept anges qui se tiennent devant la face d'Élohim. C'est l'ange parfait, la créature parfaite. Créature parfaite est du dedans de l'intimité d'Élohim, des trois personnes de la Très Sainte Trinité. Élohim, c'est un pluriel. Donc, du dedans de l'intimité de la Très Sainte Trinité. Et c'est pour ça, quelquefois, il y a des gens qui me demandent pourquoi est-ce que on dit Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi d'autres disent Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Mais tout simplement parce que, ou bien je m'adresse à une seule personne, à ce moment-là, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ou bien je m'adresse à Dieu parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a trois personnes en un seul Dieu, alors je dis, votre nom soit sanctifié, oui. Là, je m'adresse à mon Créateur, je peux tutoyer mon Créateur, après tout, pourquoi pas, sauf si on est dans la race royale. On vous voit son créateur, ça c'est notre problème. C'est en France, c'est ça. Ça c'est typique de la France, on vous voit. Moi par exemple, je vous vois mon père, je vous vois ma mère. Il faut être. C'est sûr, c'est pas sur le. Jules Ferry, vous voyez pas son père, c'est évident. Avec tout le respect qu'on doit pour Jules Ferry, bien entendu. Mais ça, ça ne veut rien dire. Mais, vous voyez, le Créateur, on peut le tutoyer, pas tout. Mais la Très Sainte Trinité, on la vous voit. Mais une fois que Jésus nous a fait rentrer et qu'on est dans le cinquième saut, dans le cinquième saut, et déjà dans le deuxième saut, le cheval rouge, la transverbération. Quand la transverbération, c'est le Verbe de Dieu qui parle au Père, première personne de la Très Sainte Trinité, et on redit tu. Donc il y a un tutoiement qui est un vouvoiement qui est supérieur au tutoiement, vous voyez, mais il y a un vouvoiement qui est supérieur à celui-là, et un tutoiement qui est supérieur à ce vouvoiement. Ça dépend comment vous en vivez. Si c'est le Verbe de Dieu qui à travers vous dit, Notre Père, dites-tu, hein, je vous en prie. Mais si c'est pas le Verbe de Dieu, s'il n'y a pas de transverbération en vous, si pour vous le Verbe de Dieu, ça ne veut rien dire, alors ne dites pas tu. Ce serait un mensonge. Mais l'Église, en disant, maintenant on va dire tu, vous voyez, elle montre que l'heure est arrivée de rentrer c'est terrible. C'est... moi, je t'aime, mais non. C'est le Verbe de Dieu qui aime le Père. C'est l'épouse qui aime l'épouse. C'est le Christ. Il faut que le monde sache que j'aime mon Père. Donc, qu'est-ce qu'on est là-dedans? On est choisi pour être l'incarnation spirituelle, glorieuse, du Verbe de Dieu dans son Père. C'est ça les sept sourds. Mais à un moment donné, ça y est, il faut faire oraison pour ça, c'est évident, c'est pas d'un seul coup, boum, je me balade dans sur le trottoir, et puis boum, ça y est, bon, oraison pour ça. Alors, donc, ça y est, c'était l'introduction. On en est arrivé là, hein. Je vois un autre ange arrive, il se tient sur l'autel. Il a un encensoir d'or et il lui a été donné beaucoup d'encens pour qu'il l'offre avec les prières des saints, tous sur l'autel d'or devant le trône. Monte la fumée de l'encens avec les prières des saints par la main de l'ange qui est devant la face d'Elohim. Et du dedans, devant, c'est pros, pros en grec, donc c'est du dedans et en même temps en face. Vous voyez, vous êtes dedans, lui, et en même temps en face. Si vous êtes prostonteon, si vous êtes en train de prier Dieu, vous êtes prostonteon. Vous savez, vous êtes prostonteon, vous êtes prostonteon, vous êtes en face de Dieu. Mais en face, ça traduit mal, vous voyez. Regardez, vous êtes en face, vous êtes dedans, lui, dedans, et en même temps en face. Donc vous le voyez, mais vous êtes dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je ne crois pas, moi, aux gens qui disent oui, et qui prient en fermant les yeux. Je ne crois pas que ce soit. Si, au début, il faut prier avec ferveur, c'est vrai, pour passer un petit peu, pour arriver jusqu'au figuier tordu par la bourrasque, hein, jusqu'au livre qu'on roule. Et puis, vous voyez, et puis. Ces contemplations, tous ces charismes, toutes ces figues qui sont jetées, écrasées contre le mur par cette bourrasque, c'est quoi? C'est les plus grandes contemplations mystiques et christiques, et chrétiennes. C'est écrasé. Cette fois-ci, on rentre, on est en Dieu, on est face à Dieu. Alors l'oraison peut commencer, vous voyez. Alors, je suis dans Dieu et je suis face à Dieu. C'est pour ça que j'ouvre les yeux, je les ferme, c'est pareil. Si vous fermez les yeux, c'est pas un signe que c'est mauvais. Mais si en ouvrant les yeux, ça abîme votre présence en face de Dieu, c'est que vous n'êtes pas encore en présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous ouvrez les yeux, vous les fermez, très bien, c'est pareil. Si on est dedans Dieu, en face de Dieu, c'est la même chose. Vous voyez Dieu, vous l'entendez, c'est la même chose. Vous entendez sa voix, vous voyez le son de sa voix, vous le voyez. Voilà. Vous entendez son visage. Ça ne s'invente pas, ça. Hein? Alors l'ange prend l'encensoir, le remplit du feu de l'autel. Et le jette sur la terre. C'est le feu, vous voyez, le feu d'amour du Saint-Esprit, vous voyez, qui est sur l'autel. L'autel, c'est quoi? Vous avez bien compris que l'autel, c'était l'unité glorieuse, l'agneau descend sur l'autel. Et il est rentré dans l'unité sponsale, il est descendu dans l'unité sponsale de Marie-Joseph. Mais cette fois-ci, c'est Jésus glorifié, Marie-Joseph. Glorifié, Joseph glorifié, qui forme l'autel, hein, qui est dans le trône. On l'a déjà vu ça. Hein. Eh bien, on va prendre le feu qui brûle l'unique cœur brasé du Saint-Esprit, qui est dans le cœur. c'est la Terre, vous la reconnaissez ou pas, non? C'est celle qu'il y a dans le... C'est celle qu'il y a dans le commentaire que Moïse fait du premier mot de la Bible, Bereshit. Bereshit bara Elohim atashamayim. Ou atasharetz, vous savez, Bereshit dans le principe. Dans le principe Bereshit. Au commencement, quelquefois on dit, très mauvaise traduction. Bereshit dans le principe. Dieu créa le ciel, la terre. Et quand Moïse a commenté ça, on a ça dans les métrages rabbiniques, et bien dans le Bereshit, il y a cette chose. Bon, je passe. Bien sûr, il y a le Saint, il y a le peuple de Dieu, il y a la Torah, l'impératif de l'amour, etc. Bon. Et puis, il y a cette chose. Le Messie. Bon. Et puis, les anges discutent, mais enfin, bon, et si jamais il faut créer aussi la repentance, parce que si jamais la création est incomplète, il faudra bien qu'il y ait un complément. Et comme les anges discutent encore, alors Dieu dit qu'il en soit ainsi, et la vérité fut jetée à terre. Le Verbe s'est fait chair. C'est dans le Bereshit, oui. C'est cette expression qui est là ici. Là. C'est une nouvelle incarnation. Mais cette fois-ci, c'est une incarnation. Oui, le Verbe a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, mais du ciel de la résurrection, il va y avoir une nouvelle incarnation à partir du Sacré-Cœur de Jésus, du Divin Cœur de Marie, et du Saint-Esprit qui brûle la résurrection des trois en un, de un en trois. Tu vas être jeté dans la terre du corps mystique du Christ. Vous voyez, une incarnation dans les membres du corps mystique du Christ. Parce que nous sommes les membres du corps mystique du Christ, spirituellement, par notre foi, mais corporellement, pas tellement. C'est pour ça que je vous dis, si un jour vous voyez des stigmates ou des grandes chaleurs, dans le physique, vous voyez là. Méprisez-les surtout, parce que si vous vous attachez à ça, vous en savez, je suis arrivé, c'est seulement la cinquième demeure. Alors, vous êtes loin, hein, vous êtes pas à l'heure par rapport au temps d'aujourd'hui. La cinquième demeure, c'est derrière nous. Là, on rentre, vous voyez, cinquième demeure, c'est les âmes sur le terre. On rentre dans la sixième, là, c'est clair. Hein. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Hein. Donc, si vous courez après les stigmatisés, c'était bien il y a encore 10-15 ans, voyez. Non, c'est pas infaillible ce que je viens de dire, je suis tout à fait d'accord. Alors, vous me comprenez quand même, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors, vous savoir, oui. Alors voilà, et aussitôt survinrent alors des tonnerres, des voix, des éclairs, des séismes, des tremblements de terre. Et les sept anges aux sept trompettes se préparèrent à sonner. Alors à ce moment-là, aussitôt la mise en place, la possibilité de la mise en place du corps spirituel, l'ouverture par le ciel, à cause de la terre, hein, du pouvoir des clés de l'Église, hein, c'est ça le pouvoir des clés qui ouvre la possibilité de la mise en place du monde nouveau. Alors à ce moment-là, il va y avoir une Pentecôte. Je vous l'ai dit, hein, dès que vous avez tonnerre, voix, tremblement de terre, éclair, c'est Saint-Esprit. Hein. Éclair parce que c'est fulgurant, tonnerre parce que c'est très puissant, tremblement de terre parce que ça bouleverse tout. Et puis voilà. Bon. Et puis il y a aussi le bruit qui est très puissant parce qu'il est à cause de sa présence. Le premier sonna. Et ce fut de la grêle, du feu mêlé de sang, jeté sur la terre. Le tiers de la terre brûle, le tiers des arbres brûle, et toute herbe verte brûle. Comme c'est beau ça. Le deuxième ange sonne, et c'est comme une grande montagne brûlante de feu. Elle est jetée dans la mer. Le tiers de la mer devient du sang. Meurt le tiers des créatures ayant existence dans la mer, ayant vie. Et le tiers des navires est détruit. Le troisième ange vin de l'absinthe. Et beaucoup d'hommes meurent des eaux devenues amères. Le quatrième ange sonne, et le tiers du soleil s'éteint, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, pour que sans ténèbres leur tiers. Le tiers du jour n'apparaît pas, ni de la nuit. Je vois et j'entends un aigle, il vole au milieu du ciel. Et il dit avec une voix forte, malheur, 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 aux habitants de la terre, à cause des trompettes qui restent, des voix qui restent, celles de la trompette des trois anges qui vont maintenant sonner. Tiens, la réalisation, c'est un petit peu spécial, hein. Le cinquième ange sonne, et je vois une étoile tomber du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui a été donnée. Il ouvre le puits de l'abîme, l'enfer, hein. Une fumée monte hors du puits, comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air s'enténèbrent par la fumée du puits de l'abîme. L'enfer est ouvert. De cette fumée, des criquets sortent sur la terre. La puissance leur est donnée, semblable à la puissance des scorpions de la terre. Il leur est dit de ne pas nuire à l'herbe de la terre, à toute verdure, de ne pas nuire à tout arbre, à quelconque arbre non plus, sauf aux hommes qui n'ont pas le sceau d'Élohim sur leur front. Il leur est donné, non pas de les tuer, mais de les tourmenter 5 mois, 153 jours. Comptez bien, 5 mois, la grâce. La grâce, voyez, 5 mois. La grâce, 1 mois c'est 30 jours, n'est-ce pas ? De la grâce dans la Sainte Famille. La grâce dans la Sainte Famille, à ce moment-là, la Très Sainte Trinité est dedans, ça fait 153. 153, c'est le chiffre de l'Église. C'est tous ceux qui vivent de Dieu, hein ? De Marie, 5, pour être entièrement intégrés à la Trinité glorieuse, à la Trinité incréée, et du coup à la Trinité éternelle. Ça, 153. Leur tourment est semblable au tourment du scorpion, à les tourments de l'Église. C'était extraordinaire de voir exprimer là le tourment de Jésus sur la croix, le tourment de l'Église. Mais on y reviendra de toute façon, hein, parce que vous inquiétez pas, les 7 trompettes, c'est très important. Leur tourment est semblable au tourment du scorpion quand il pique l'homme. En ces jours, les hommes cherchèrent la mort sans pouvoir la trouver. Ils désirent mourir, mais la mort fuit loin d'eux. Ils sont semblables à des criquets. Ils sont semblables à des chevaux. Ces sauterelles sont semblables à des chevaux prêts pour la guerre. Sur leur tête, comme des couronnes semblables à de l'or, leurs faces sont comme des faces d'hommes. Ils ont des cheveux semblables à des cheveux de femmes. Leurs dents sont comme celles des lions. Ils ont un thorax comme un thorax de fer. La voix de leurs ailes est semblable à la voix des chars et des chevaux en multitude qui courent pour le combat. Ils ont des queues semblables à des scorpions avec des dards, et dans leur queue, leur puissance de nuire aux hommes pendant 5 mois. Ils ont sur eux un roi, le messager de l'abîme, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Apatone, perdition, et en grec, il a pour nom Apollyon, orgueil. Le premier malheur s'en va. Voici encore deux entièrement détruit sur la croix. Et ça, ça fait partie de la vie chrétienne. Tout doit être complètement anéanti. La contradiction absolue. Même sur le plan surnaturel. Même sur le plan surnaturel. La contradiction absolue. Ça, c'est ce côté un peu exaltant, si vous voulez, de la parousie. C'est que il va se mener un combat eschatologique et nous on est au-dessus parce qu'on sait très bien que tout ça c'est... Je rentre dans un doute, mais alors effroyable. Excellent. Excellent. Oui, mais pour l'instant c'est une petite course d'entraînement pour les Lilliputiens. Hein. Mais alors à ce moment-là, alors là... C'est vrai, écoutez, la transverbération de Marie, c'est fou, quoi, ce qui s'est passé. Elle a été entièrement transverbérée. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, quoi. Quand Jésus glorieux est rentré dans le sein de Saint Joseph, dans les limbes, et que Saint Joseph, dans son unité spontanée avec elle, a produit cette gloire dans la transverbération, et qu'ils ont été emportés tous les trois, hein, dans cette fulguration extraordinaire. Joseph est rentré dans la vision béatifique. Qu'elle n'a pas rien reçu, c'est... elle a dû aller jusqu'à la destruction totale de tout ça, grâce à Saint Jean d'ailleurs, dans la dormition. Il a fallu qu'elle rentre dans la destruction totale de toutes les manifestations surnaturelles de tous les êtres humains de tous les temps. Marie, elle l'a vécu dans sa chair, ça. Cette destruction totale de tout ce que Dieu donnait, même surnaturellement, de saint, de pur, de grand, de lumineux, de miséricordieux, dans tous les êtres humains, ça a été broyé, détruit, anéanti en elle. Une contradiction totale. Écoutez, l'ange Gabriel lui a dit, voilà, il règnera.